les pieds sur terre, Sonia Grönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Dans L'amour au temps du choléra, le roman de Gabriel Garcia Marquez, la maladie n'est qu'une toile de fond, un élément du décor tropical et moite des Caraïbes à la fin du 19e siècle. Aucun des personnages principaux, que ce soit le jeune Florentino Ariza ou la femme qu'il aime, Fermina Daza, ou encore le mari qu'elle épouse, n'est atteint du choléra. Mais la simple mention de la sombre pandémie dans le titre suffit en réalité à donner quelque chose d'urgent, de tragique, à la passion exclusive, obsessionnelle qui habite ce jeune télégraphiste pendant près de 50 ans pour une écolière devenue la femme d'un autre. Il y a peut-être aussi, par contagion de sens, l'idée que l'amour est une maladie mortelle qui a contaminé le jeune homme et dont il ne guérit jamais. Aujourd'hui, à l'intérieur du grand ensemble qui regroupe les récits de confinement à travers le monde, les histoires d'amour forment une sous-catégorie bien distincte. Mais rares sont celles qui mêlent directement la maladie à l'amour. Comme ce couple d'agriculteurs, Thérèse et Alexis, qui furent mariés pendant 58 ans et vécurent heureux à Sablé-sur-Sarthe. Seul contaminé de toute la commune, rapporte Lopes dans ses 13 histoires extraordinaires au temps du corona, ils sont tous deux morts du Covid à l'hôpital, dans des chambres voisines, à une heure d'intervalle. Les autres histoires sont des expériences presque banales, rendues dramatiques par le confinement ou le danger, des séparations interrompues, des trahisons dévoilées, des rencontres empêchées, des coups de foudre entre voisins de balcon, des 06 envoyés par drone, des couples reformés. Alain Lefkovitch vous en raconte 3, tout de suite dans Les Pieds sur Terre, pour le meilleur et pour le pire, l'amour au temps du corona.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Mon nom, c'est Elia, je vis à Bruxelles. Je suis cadre dirigeant dans une grosse société dans l'industrie. Et à côté de ça, je suis poète.
Je m'appelle Rachel, j'habite à Paris. J'ai 34 ans et voilà. On a tissé des liens un peu spéciaux avec ma sœur, on est très très proches. Comme c'est ma grande sœur, j'ai beaucoup de facilité à me confier à elle, à raconter un peu ce qui m'arrive. Du coup, là, pendant le confinement, c'est vrai qu'on a pas mal discuté de mes échecs sentimentaux précédents. Voilà, on a eu pas mal de discussions, de rigolades autour de ça.
Ces derniers temps, moi, j'étais un petit peu pas inquiète, mais presque du fait qu'elle n'avait aucune envie de rencontrer un homme. Aucune envie de se mettre en avant, aucune envie de pouvoir se mettre dans une relation. Et je me disais, voilà, si finalement elle pouvait rencontrer quelqu'un, ça lui changerait ses avis. Et puis en même temps, avec le confinement, ça devient un petit peu compliqué. Hein.
Cette volonté un peu de rencontrer des gens est un peu abîmée chez moi, j'avoue, quand on a eu des histoires longues qui ont pas fonctionné, quoi.
J'avais envie d'un peu lui donner un petit coup de pouce. D'abord sur le ton de la rigolade, et puis en réalité avec un petit côté en fond sérieux quand même, avec un fond de vérité. Donc je me suis dit, voilà, si je poste une annonce, ça serait une chouette idée. Donc j'en ai parlé, mais vaguement. Je me dis, bon, je vais faire un truc pour toi, et comme ça on va regarder s'il n'y a pas des mecs dans mon réseau. Puis elle m'a dit, ouais, si tu veux.
La raison... qu'elle invoque, c'est qu'elle a énormément de connaissances et de contacts, notamment masculins, dans son entourage.
Alors oui, donc j'ai posté ça sur ma page Facebook de poésie érotique. Le titre de la page, c'est « Prose sexuée d'une femme libre ». Alors oui, hein, tout est dans le titre, évidemment. J'ai à peu près de 5000 abonnés. Et je me suis dit, comme la plupart des abonnés sont des hommes, il y aurait beaucoup de chances que certains candidats se pointent et puissent répondre à l'annonce un peu cash, qui a d'ailleurs heurté certains. En effet, j'ai mis exactement la fourchette très précise d'âge, la taille minimum 1m82, entre 36 et 40 ans. J'ai mis aussi quelqu'un de stable émotionnellement et psychologiquement, ça a aussi heurté pas mal de gens. Et puis j'ai mis une photo de ma petite sœur. Donc le contenu de l'annonce, c'était ça. Je recherche pour ma sœur cadette un futur époux 36-40 ans, ce qui signifie homme bien dans sa tête et son corps. désireux de construire une vie de famille, 1m80, drôle, délicat, vif d'esprit, autonome financièrement et psychologiquement. Rachel a 33 ans, elle est flexible géographiquement, elle est intelligente, drôle, douce et sauvage en même temps. Pas sérieux de s'abstenir, envoyez votre dossier en MP.
Je sais très bien que si elle fait ça, c'est pas du tout, ni m'exposer, ni me dans quelque chose de l'ordre du malveillant ou du voyeur. C'est pas du tout ça. C'est vraiment. Puis elle est très dans ses réponses. De toute manière, elle veillait à ce qu'on me respecte.
Mais bien sûr, j'ai eu beaucoup de réactions très délicates de gens qui m'ont encouragée, qui ont trouvé ça original, sympathique d'utiliser Facebook pour mettre en avant. Une annonce amoureuse, et d'un autre côté, j'ai eu des réactions aussi de gens qui me disent « Ouais, non mais pourquoi tu fais ça, tu vends ta Twitter, enfin des trucs bizarres quoi, des trucs complètement extrêmes. Puis des réactions du genre « Et elle, qu'est-ce qu'elle a proposé, envoie-nous tes mensurations, enfin voilà quoi. C'est n'importe quoi. Enfin, il y a même des gens qui m'ont envoyé des messages « Je te bloque immédiatement, je trouve ça grave ce que t'as fait, enfin... t'affiches ta sœur comme ça, le public cible de ma page, effectivement, est plutôt 45-65. Du coup, j'ai reçu aussi des hommes de plus de 60 ans, hein, quand même, qui ont écrit en disant qu'ils avaient un tout petit peu dépassé les critères, hein, qui m'ont écrit que c'était pas si grave et qu'il fallait finalement pas tenir compte de l'âge, qu'ils feraient complètement l'affaire et qu'ils seraient épatés de leur talent. Alors qu'en plus, dans la banque, je m'étais effectivement, je ne sais pas, construire une vie de famille, quoi. Hein, donc, je trouvais ça un peu glauque. Mais après, quand on fait un truc avec un peu d'humour, faut accepter aussi qu'en retour, on a ce genre de réponse. Donc, c'est un peu glauque, mais c'était pas le pire, quoi. Le pire, c'est qu'on me dise qu'on n'acceptait pas du tout ma démarche et, enfin, des gens qui m'ont viré, bloqué, etc. quoi. Dans le casting, il y a eu effectivement trois finalistes, entre guillemets, qui étaient d'ailleurs très fiers d'être les trois finalistes. Trois hommes qui correspondaient parfaitement aux critères d'âge, plutôt grands, des hommes aussi bien dans leur tête, donc voilà.
Du coup, c'était assez charmant, franchement, j'avoue, ça a vraiment, je pense, fait son petit coup d'égo. Je ne dirais pas, ça m'a remis le pied à l'étrier, mais voilà qu'il y avait des gens qui s'intéressaient à moi, qui me trouvaient charmante, jolie, intéressante.
On n'avait pas forcément, et moi, j'avais pas forcément envie de la marier tout de suite. J'avais juste envie qu'elle reprenne espoir, et c'est ça qui a réussi, et c'est là où je suis contente, et je pense elle aussi. La période du confinement était propice à ce casting, à cette annonce, parce que justement, les gens sont en merde, ils sont chez eux, ils n'ont pas vraiment la possibilité de rencontrer qui que ce soit. Donc les filles célibataires, d'après moi, qui étaient déjà endurcies, étaient encore plus frustrées, et elles étaient capables justement de répondre à ce genre d'annonce, puisque c'est difficile de se rencontrer pour le moment, quoi.
Effectivement, ça m'a donné envie de parler avec les gens, d'aller voir en tout cas, ça a nourri au moins cette curiosité, quoi. Du coup, je télécharge Tinder, je me crée un profil, et voilà, puis je swipe, quoi. Je regarde les gens un peu, leur bio, je m'intéresse un peu à leur profil, ce qu'ils racontent d'eux. Puis quand je trouve quelqu'un d'intéressant ou charmant, voilà, j'ouvre la conversation, quoi. Je sais pas comment on dit, je m'en rappelle plus, je like. Je crois que c'est ça. Sur ce genre d'application, c'est les gens ils se rencontrent assez facilement, mais moi je suis un peu plus dans la retenue, je suis assez timide, quoi. J'aime bien prendre le temps de parler avec les gens, d'avoir une discussion d'abord pas engageante, pas trop se raconter, mais voir un peu comment réagissent les gens avant de les rencontrer en réel, quoi. Et du coup, effectivement, le confinement, ça n'a pas vraiment été une contrainte, parce que ça m'a permis d'avoir ce protocole, si je dirais, de rencontre de façon obligatoire, quoi. Il ne pouvait pas y avoir d'accélération possible. En discutant avec plusieurs hommes, j'ai eu une affinité assez proche avec quelqu'un, ce que je ne pensais pas avoir, j'avoue. Avec quelqu'un avec qui la discussion s'est engagée facilement, c'était fluide, avec de la complicité, pas mal d'humour. Ça a éveillé ma curiosité. J'ai eu envie de plus connaître cette personne. Et on a continué à discuter, c'était vraiment cool. Et du coup, on s'est dit, bon, on se rencontre via vidéo, quoi. Parce que le confinement oblige, on ne peut pas faire autrement. Je pense que c'est cool parce que c'est pas quelqu'un que j'aurais pu rencontrer dans la vraie vie que je mène, parce que c'est pas, on n'est pas amené à se rencontrer, quoi. Ce qu'on n'aurait pas pu faire s'il n'y avait pas eu de confinement, en gros, si je peux résumer un peu. Parce que vraiment, je suis moins stressée que si je l'avais rencontré directement, je pense. Vraiment, ça m'a déstressée. Petite histoire sympa du confinement.
Les pieds sur terre.
J'habite à Paris, j'ai deux enfants en garde alternée et je me suis retrouvée confinée à Biarritz parce que j'étais partie pour un week-end pour faire des travaux et pendant ces 2 mois, je suis restée là-bas. J'ai trouvé ça extraordinaire comme moment parce que j'ai fait plein de choses que j'avais envie de faire et que j'avais pas forcément pris le temps avant de refaire de la musique, de me mettre à des cours d'italien que j'avais envie de faire et puis surtout de me retrouver face à moi-même et de reprendre confiance sur plein de choses. Je me suis mis à repeindre les volets, les fenêtres, enfin bon, des choses manuelles auxquelles je pensais pas forcément pouvoir faire. Et puis je me suis remis aussi à reconduire parce que comme j'étais un peu isolée, une voisine m'a prêté sa voiture et je me suis retrouvée à reconduire là, parce que ça faisait des années que je n'avais pas reconduit. Mon conjoint était à Paris, très pris par son travail et sa vie. Ben, de mon côté, en fait, un sentiment fort a émergé. C'est juste d'avoir l'impression que la solitude était merveilleuse et que j'étais bien et que j'en profitais. Alors que lui était dans un autre monde et j'avais l'impression qu'on n'avait plus d'échange dans ces deux mondes-là, plus de compréhension de l'autre et que finalement, vivant dans deux mondes parallèles, on ne pouvait plus s'entendre et au gré des jours, les conversations se sont... ont été limitées de plus en plus par des textos sur WhatsApp. 2-3 fois par semaine, y a-t-il du courrier ? Réponse, oui, tu as reçu telle chose, faut-il faire quelque chose ? Oui, bon, as-tu arrosé les plantes ? Pas grand-chose d'autre finalement. Je n'avais même plus le désir de lui parler parce que il avait rien à raconter, physiquement, parce qu'il s'occupait sans doute pas de lui, il faisait pas la cuisine, il sortait pas, il se rasait pas, il se coupait pas les cheveux, il s'habillait plus. Enfin bon, je le sentais de loin quand même. Et que lui, par contre, n'était pas franchement heureux. Et je craignais que ce clash entre moi qui étais bronzée, super contente, et lui qui était au fond de sa tanière, crevé, ce soit un peu difficile de retrouver un terrain d'entente. J'avais juste appuyé sur la touche pause. Je ne me suis pas rendu compte que la touche pause allait se transformer en stop tout de suite. C'est dur à dire, mais j'ai imaginé d'autres touches. C'est-à-dire, je me suis remis en contact avec des anciens prétendants, des futurs nouveaux intermédiaires, vous voyez. J'ai imaginé un monde parallèle. J'ai pu partager des conversations avec d'autres hommes et finalement, j'avais l'impression d'avoir vécu plein d'aventures et de revenir vers mon vieux mari qui était toujours là, fidèle au poste, gentil. Jusqu'au dernier moment, j'ai même été paniquée, quoi, en me disant « Mais vas-tu pouvoir revenir à la maison ?» Mais je n'étais pas au bout de mes surprises parce que finalement, pour moi, c'était une sorte de pause, de parenthèse, de cheminement différent dans ce que nous vivions. Mais je n'imaginais pas du tout ce qui allait se passer au retour. Le déconfinement arrive et j'imaginais tout d'abord qu'il allait venir me chercher, mais il a dit qu'il ne l'avait pas fait. Enfin, il ne voulait pas le faire parce que d'abord, c'était compliqué d'avoir une autorisation, qu'il avait du travail et qu'il était fatigué et qu'en gros, il n'en avait pas envie. Il est venu quand même me chercher à l'arrêt de bus, il m'a aidé. La première chose que j'ai faite, c'est d'avoir un geste tendre et de l'attirer à moi. Et là, j'ai eu un retour physique assez brutal, quoi, comme s'il me disait « Non, avant, j'ai quelque chose à te dire. » Et il a dit « Non, j'aimerais te dire que demain matin, je déménage. » Alors, stupeur, bon, je me suis dit, bon, il dit ça en l'air, on dit pas un truc comme ça, sans discussion, sans partage, je sais pas, voilà, c'est un truc qui lui est sorti, il va changer, évidemment, il va changer d'avis, et le lendemain matin, il dira plus ça. Et le lendemain matin, il était bien en train de préparer ses affaires et de partir, malgré quand même les discussions qu'on a fini par avoir, le dîner qu'on a partagé et la nuit d'amour et nos rapports sexuels qu'on a eus. Alors là, vraiment, ça m'a fait plus un choc le lendemain matin que le soir même quand il m'a dit... je déménage. Et je me suis retrouvée à 9h devant mon ordinateur au travail en me disant « Bon, tu te concentres sur ce que tu fais et puis tu verras plus tard. » quoi, parce que j'étais quand même très, très désarçonnée. Et que j'avais pas envie forcément d'un autre homme et j'avais pas envie d'une autre vie. C'est ça qui est étonnant, c'est que quand même, malgré tout, quand je l'ai vu, j'étais très heureuse de le mettre dans mon lit. J'avais juste le moment où j'ai mis la clé dans la serrure, je me suis dit je vais retrouver ma vie avant le confinement et en fait ça va être très bien. Je pense que le confinement a confirmé les nuages qui existaient auparavant, en fait.
Je m'appelle François, j'habite en Normandie, je suis pour l'instant toujours marié. J'ai deux enfants, un garçon et une fille, je suis né en 80, donc j'ai une quarantaine d'années. Alors, avant le confinement, notre couple n'allait pas bien du tout. On avait décidé de se séparer, c'était déjà acté. Sauf que les démarches n'étaient pas complètement accomplies. D'un point de vue juridique, comme d'un point de vue purement organisationnel entre nous, je savais que ça allait nous prendre du temps. Mais jamais j'avais imaginé un seul instant qu'on allait se retrouver coincé comme ça. Alors quand le confinement est arrivé, donc d'abord je m'en suis voulu en me disant t'as procrastiné un peu sur le dossier, puisque pour l'instant ça allait plutôt pas trop mal, c'était pas trop dérangeant, et là tu vis le truc comme jamais tu l'as imaginé. Et évidemment, ça vient mettre du piment, pas dans le bon sens du terme, ça vient mettre du piment dans l'ambiance, dans la relation, quoi, c'est pas confortable, ça gratte. On n'avait pas imaginé que ça allait durer aussi longtemps, évidemment. Mais on n'a pas séparé la maison avec parpaing, toi à gauche et moi à droite. Donc par contre, c'était moi j'ai vécu sur le canapé. Donc le confinement, c'est une colocation subie. Hein. On est privé de ses droits et en plus, on a un sentiment presque d'être pris au piège. Clairement, quand on est dans une situation où on avait décidé chacun de retrouver sa liberté, là, on nous impose totalement l'inverse. Alors, on peut considérer qu'il y a eu trois phases dans ce confinement, dans notre mode de fonctionnement. Il y a eu une première phase un peu de stupéfaction et puis de réaction immédiate. Voilà, on avait quand même pas mal de choses à trier, que ce soit dans nos vies ou dans la maison. Donc ça a été les deux premières semaines, on va dire les trois premières semaines. Ça n'a pas été très simple, mais on avait besoin de faire ça. On va pas se mentir, hein, il y a vraiment dans un divorce, c'est... toi tu prends ça, si tu prends ça, moi je prends ça, ça j'ai peut-être le souvenir, mais moi aussi j'ai le même souvenir, c'est un cas de mariage, c'est commun, enfin il y a eu ces choses-là à trier. Moi j'ai eu besoin de dire bah ok, on est en train de trier, on décide de qui appartiendra à la cafetière, qui appartiendra au canapé, qu'est-ce qui prend la photo des enfants à cet endroit-là, qu'est-ce qui fait ci, qu'est-ce qui fait ça. C'était bien de l'écrire. Moi, j'avais besoin d'avoir un truc tangible, que ça continue d'avancer pour de vrai. Après, il y a eu 3 autres semaines où là, c'était beaucoup plus compliqué parce qu'on commençait clairement à s'agacer l'un et l'autre. Ce qui a été le plus dur, c'était devant les enfants, en fait, de faire toujours au maximum bonne figure. Après, ils ont bien vu que ça montait en pression. On essaie de cacher les choses au maximum. Mais les enfants, les cours, les tâches ménagères, le boulot en télétravail. Donc moi, j'ai un travail qui est très commercial, donc évidemment, c'était un peu moins prenant. Mon épouse, elle a plus un métier d'ingénierie. Donc elle, bah, c'était elle, pour le coup, ça s'arrêtait pas, clairement pas du tout, son boulot. Donc c'était un peu complexe. Typiquement, c'était sur le fonctionnement de la fin de journée. Les enfants ont fini leur journée, c'est l'heure d'aller au bain. Évidemment, ils n'ont pas vu les copains, ils n'ont pas eu l'école, ils n'ont pas eu la récréation, donc ils sont pas assez fatigués. Vous montez aussi un peu en température. Comme vous travaillez un peu moins que votre conjoint, bah c'est vous qui portez un peu cette heure-là. Et puis après, bah on passe à table, ne l'appelez pas trop. Vous êtes déjà bien énervé. Bah là, il faut pas péter les plombs à ce moment-là. Une fois que le bain a été passé, que l'épreuve du dîner a été affrontée, dans notre vie d'avant, c'était notre instant à nous. Et là, bah là, c'est clairement l'angoisse. Enfin, moi, c'est un moment que j'essayais d'éviter. En allant courir un peu, puisqu'on avait le droit. Elle a essayé d'éviter en allant courir un peu. Et puis ensuite, chacun part dans ses activités. Donc, pour l'un, l'ordinateur, pour l'autre, la télé. Le but, c'est de se croiser sans se déranger. Puisqu'après, bah, de toute façon, le lendemain, il fallait bien que ça recommence, cette affaire. Donc, autant se préserver. Donc, ça, c'était dans le meilleur des cas. Et puis, dans le pire des cas, ça devenait l'instant des règlements de compte. Quand je regarde en arrière, j'ai l'impression d'avoir cherché le prétexte à chaque fois pour y aller. Pour dire, ouais, là c'est bon, tu me fais chier, arrête de dire ça, arrête de faire ça, arrête d'être comme ça, etc. J'ai souvent déclenché le truc. C'était un agrégat de choses qui m'ont agacé dans la journée, qui faisaient que le soir, j'avais besoin presque d'aller chercher cette engueulade, clairement. Et je pense que du côté de ma conjointe, elle était plus, je t'ignore, allez hop, chaque jour suffit sa peine. Elle en avait plein la gueule avec le boulot. Les enfants, ça faisait du bruit, c'était compliqué à gérer. Et elle était contente que la journée se termine, et voilà. Mais quand on était raccord sur on va bien s'engueuler, là, c'était bien. Ouais. Alors attention, on s'engueule, on s'est jamais tapé dessus, bien évidemment. Mais voilà, on avait besoin de se dire des choses dures, quoi, se faire un peu de mal. Alors pendant le confinement, quand on était au plus dur de la bataille émotionnelle, j'ai envie de dire, je dirais que j'étais entre la rage et le désespoir. La rage parce que j'avais envie d'une chose, c'était sortir, me sauver, aller courir, faire n'importe quoi pour me débarrasser de tout ça, mais ça c'est mort. Et puis surtout, avec une obligation de retour à la case départ. Donc le sentiment d'être bien attaché à un fil, enfin avoir un bon fil à la patte. Donc, je dirais que l'enfer, c'était ça. C'était juste de se dire, ça, c'est la situation que je ne veux plus, que je ne voulais plus vivre, et donc j'ai fait le choix de divorcer. Et ben là, je la vis. Je la vis, et en plus, je la subis. Donc, je suis pas du tout maître, je suis plus maître de ma vie. Et c'était ça, l'enfer. Et moi, j'ai souvent fait ce rêve un peu bizarre. D'être ralenti. C'est-à-dire que le monde autour de moi allait vite et moi je marchais comme si j'étais complètement pris dans de la mousse. Et notamment un soir où là on s'était bien disputé, j'ai fait un cauchemar où je me battais contre des agresseurs et mes poings partaient au ralenti. Donc j'étais en slow motion quand les autres allaient très vite. Et c'était l'enfer. C'était l'enfer, en fait. Ouais, j'étais, mes rêves m'emmenaient dans une vie où j'étais le seul à être en slow motion quand la vie défilait. Je me sentais englué dans ma vie et je l'étais même dans mes nuits, donc c'était pas formidable. La troisième phase, c'est la phase où on sent que ça va être la sortie. L'annonce de la probabilité d'un déconfinement, à partir de ce moment-là, déjà je suis clairement descendu en pression, parce que je me suis dit, bah, c'est bon, il y a une échappée là-dedans. J'étais content parce que j'avais fait le tri. Et j'étais aussi content parce que malgré tout, ok, on s'est complètement désaimé, mais on a quand même réussi. Pour les enfants, on a réussi. Et après, moi, je me suis mis qu'une seule chose en tête. Je suis rentré un peu en mode action, genre, ok, t'as été un peu long à la détente, t'étais pas divorcé quand ça a commencé. Et ben, t'as intérêt à divorcer ultra vite fait, et au moins à t'organiser. Donc moi, je me suis mis en recherche d'un appart tout de suite pour pouvoir quitter la maison à J plus 1. Quoi. Aujourd'hui, donc à J plus 3 semaines, mon canapé lui n'a pas changé puisque c'est toujours là que je dors, sauf qu'il est dans un appartement où je peux recevoir mes enfants. Donc là, on est en cours de séparation de manière intensive et on est bien décidé à pas se retrouver encore une fois dans le même endroit. Et c'est vrai que le fait d'avoir été vraiment privé de sa liberté, et sa liberté dans tous les sens du terme, liberté d'être qui on aime, etc., tout ça, enfin, c'est vraiment... fait qu'aujourd'hui, oui, je suis très heureux. Je pense que je suis plus heureux qu'avant le confinement. Et puis voilà, l'affaire est derrière nous.
On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas.
On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien. Être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien.
Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question.
Non, 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 il n'en est pas question.
Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment.
Ce besoin de tendresse
qui nous vient en laissant.
Vraiment, vraiment, vraiment,
le travail est nécessaire, mais s'il faut rester.
Semaines sans rien faire,
eh bien on s'y fait.
Mais vivre sans tendresse,
le temps vous paraît long.
Long, 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 long.
Le temps vous paraît long. C'était l'amour au temps du corona, trois récits racontés par Alain Lefkovitch et réalisés par Yaël Mandelbaum. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Camille Richir avec Sarah Djiriwi. Merci à Elia, Rachel, Nathalie, François, Julie et Alice Théry de onsesépare.com.